Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Flannery O'Connor est morte en 1964, avant d'avoir 40 ans, des suites du lupus érythémateux qui l'a rongé depuis son adolescence, sans avoir jamais quitté la ferme familiale de Géorgie, après deux romans et une trentaine de nouvelles qui l'ont classé parmi les très grands écrivains américains. Au cœur de l'hiver de 1982, c'était à une saison en enfer que Marlène Hospice conviait les auditeurs de France Culture avec un documentaire du vendredi en compagnie de Hector Bianchotti, Gabriel Rollin et de Roger Grenier qui évoquait la vie et l'œuvre de Flannery O'Connor. Une œuvre pleine de la violence et des couleurs des États du Sud, à propos de laquelle Jean-Marie-Gustave Le Clézio a écrit. Si l'univers que nous présente Flannery O'Connor nous choque, c'est bien moins parce qu'il est confus et brutal que parce qu'il est vrai. D'une vérité dure et simple, intuitive, revendicatrice, il est là pour arracher nos illusions, pour nous convaincre, pour remettre nos sens et nos idées en question et nous faire aimer la lucidité.
Une saison en enfer avec Flannery O'Connor, une émission de Marlène Hospice, avec la participation de Hector Bianchotti, Gabriel Rollin, Roger Grenier. Flannery O'Connor, née aux États-Unis à Savannah dans l'État de Géorgie en 1925, est morte en août 1964.
La grand-mère ne voulait pas aller en Floride. Elle voulait aller voir des parents dans l'est du Tennessee. Elle essayait par tous les moyens d'amener Bellet à changer d'avis. Bellet était le fils chez qui elle habitait, le seul qu'elle eut. Il était assis devant la table, à l'extrême bord de sa chaise, penché sur les pages oranges de la rubrique sportive du journal.
« Dis donc, Bellet, lis-moi ça. »
Elle était debout auprès de lui, une main plaquée sur sa hanche frêle, tandis que l'autre, dans un grand froissement de papier, brandissait le journal vers la tête chauve de son fils.
« Écoute-moi ça, Bellet. Le type qui s'est baptisé le Désaxé s'est échappé de la prison fédérale et se dirige vers la Floride. T'as qu'à lire. Tu verras ce qu'il a fait à ces pauvres gens. Moi, je voudrais pas emmener mes enfants là où un criminel comme ça se balade en liberté. J'en aurais trop lourd sur la conscience. »
Comme Bellet ne levait même pas la tête, elle fit volte-face vers la mère des enfants. Une jeune femme en pantalon, au visage insignifiant et rond comme une lune, avec un foulard vert noué autour, dont les deux bouts pointaient comme des oreilles de lapin. Elle était assise sur le canapé, un bol à la main, et donnait un jus d'abricot au bébé.
« Les enfants sont déjà allés en Floride. » Faudrait mieux les emmener ailleurs pour changer. Ils verraient du pays et ça leur ouvrirait l'esprit. Ils sont jamais allés dans l'est du Tennessee.
La mère sembla ne pas entendre. Mais le garçon de 8 ans, John Wesley, un gamin trapu portant lunettes, dit
« Si tu veux pas aller en Floride, pourquoi que tu restes pas à la maison ?»
Il était assis par terre en train de lire des comics avec sa petite sœur June Starr.
« Elle resterait pas à la maison pour tout l'heure du monde. »
dit June Starr sans lever sa tête blonde.
« Oui, Da. Et qu'est-ce que tu ferais ?» si le désaxé t'attrapait?
J'allongerais une baffe.
On la ferait pas rester ici pour $1 million. Il faut qu'elle aille partout qu'on va. Elle céderait pas sa place pour un boulet de canon.
Très bien, ma petite. Je m'en rappellerai la prochaine fois que tu me demanderas de te friser les cheveux.
Hector Bianciotti, où voyez-vous la fameuse violence, l'effet choc que tout le monde s'accorde à trouver dans l'œuvre de Flannery O'Connor?
Bon, je la vois partout, c'est-à-dire qu'elle est sans pitié. Je pense qu'elle a un regard qui engendre la violence, qui dévoile la violence. Or, je crois qu'elle a une tendance à chercher comme des métaphores de l'horreur humaine, n'est-ce pas? Il y a aussi une fascination de la bêtise. Elle éclaire très bien chez les êtres. Et elle éclaire tout ce qui est égoïste et monstrueux.
Est-ce qu'on a absolument besoin de rapporter ça à sa vie? C'est-à-dire savoir qu'elle a été malade toute sa vie, qu'elle a eu un destin tragique?
Non, absolument pas. Je ne crois pas du tout. Je crois qu'elle aurait été saine, elle aurait écrit une œuvre dans les grandes lignes similaires. Et je crois aussi que comme toute œuvre, si elle est réussie, on n'a jamais besoin de savoir quelles ont été les circonstances de la vie de l'auteur, ni qui était l'auteur vraiment. Ça enrichit une œuvre, ça lui donne un poids. Je crois beaucoup à ça, que le fait de connaître après la biographie, après qu'on a aimé une œuvre, connaître l'auteur, connaître la biographie de l'auteur, etc., ça donne un poids à l'œuvre et ça le rend plus intime. Pour moi, avant tout, une personne que j'aurais voulu connaître. Et je ne pense pas à elle sans sentir une sorte de peur rétrospective. Elle a frisé l'anonymat. C'est par un pur hasard qu'on a vraiment découvert son talent, non?
Revenons alors un peu justement à cet univers que décrit Flannery O'Connor, parce que le mal est absolu. Est-ce que ce n'est pas ça qui fascine chez Flannery O'Connor? Voir quelqu'un qui va jusqu'au bout sur le plan de la spéculation, dans l'imagination du mal.
Non, je crois que tout simplement qu'elle voit l'homme dans toutes ses possibilités d'agir, dans tous ses agissements virtuels. Et dans tous ses agissements virtuels, je crois qu'elle a raison, elle me fascine, parce que je pense comme elle que l'homme est un puits d'abomination, et que la beauté est un ingrédient, c'est-à-dire qu'en germe, l'homme, depuis que nous connaissons son histoire, est toujours un criminel en puissance.
Got the blues, can't be satisfied. Got the blues, can't be satisfied. Keep the blues, I'll catch that train and ride. Whiskey straight will drive the blues away. Whiskey straight will drive the blues away. That be the case, I won't support today.
Gabriel Roulin, dans quelles circonstances avez-vous rencontré, puisque vous avez eu la chance de rencontrer Flannery O'Connor?
Je me trouvais en Amérique en 1957 avec une bourse Fulbright en tant qu'étudiante. J'ai rencontré le directeur d'un grand journal du Sud, le journal s'appelait l'Atlanta Constitution, c'était le journal de la ville d'Atlanta, le plus grand journal de Géorgie. Et ce monsieur, me sachant intéressé par la littérature du Sud, me dit « Nous avons deux grandes femmes écrivains dans le Sud, romancières. L'une, c'est Carson McCullers et l'autre, c'est Flannery O'Connor. Pourquoi ne les rencontriez-vous pas ?» Alors, il me donne l'adresse des deux. Moi, c'était à Williamsburg, en Virginie, une petite ville qui fait très... Oh, un peu chiqué, un peu musée Grévin, tout le monde porte des costumes d'époque, du 18e, tout le monde joue à la libération d'Amérique, aux années héroïques. Et j'envoie immédiatement une carte postale aux deux femmes en question, je reçois deux réponses, et puis je lis leurs œuvres, je connaissais un peu Carson McCullers, pas du tout Flannery O'Connor. Flannery me répond, comme je lui avais écrit que j'écrivais aux deux, que j'envoyais deux cartes postales, elle manifeste un certain agacement à l'idée que j'écris à Carson McCullers et très vite, séduite, conquise, obnubilée par Flannery, eh ben, j'abandonne la correspondance qui est à peine entamée avec Arsène Maculas pour devenir une des innombrables amies et correspondantes de Flannery O'Connor.
Vous êtes en train de traduire sa correspondance?
Oui, je pars aux États-Unis le 28 septembre pour voir l'héritière testamentaire de Flannery, qui est chargée non seulement de la biographie, mais qui a édité aux États-Unis une sélection d'un monceau de lettres qu'a édité Flannery. Cette sélection est certainement la meilleure chose que pouvait faire Madame Fitzgerald, mais elle comporte une énorme omission dans la mesure où Flannery, ayant très peu vécu, étant morte très jeune, n'a communiqué finalement qu'avec une personne quotidiennement, ou presque quotidiennement, c'est sa mère. Même quand elles vivaient ensemble, Flannery laissait des mots, des billets, des confidences, des secrets à sa mère. Et pendant ses études, de l'âge de 18 ans à l'âge de 22-23 ans, quand Flannery était loin de chez elle, elle écrivait à sa mère. Et la vieille Madame O'Connor, qui est une personne admirable et redoutable, parfaitement énergique, mystique et en même temps assez inculte, je peux le dire sur les ondes françaises, je ne crains pas qu'elle m'écoute, refuse de léguer quoi que ce soit et de montrer quoi que ce soit. Donc, sur cette énorme sélection de lettres, comme l'avoue en toute honnêteté Madame Fitzgerald, il manque une dimension qui sont les secrets, les lettres de Flannery qui comportent peut-être des choses que nous ne connaîtrons jamais. Il est certain que Madame O'Connor tient aux lettres de sa fille, ne lâchera pas les lettres de sa fille, censurera les lettres de sa fille, a refusé de les livrer. C'est d'autant plus regrettable que, à cause du parallélisme entre les grandes femmes de lettres, Flannery O'Connor, Carson McCullers, et on peut remonter à Virginia Woolf ou peut-être même Emily Brontë. L'intelligentsia américaine, les critiques littéraires américains pensent que peut-être Flannery O'Connor a eu une tendance homosexuelle. C'est peut-être tout à fait gratuit, c'est peut-être fondé sur le fait que tous les autres grands écrivains que je viens de nommer, écrivains femmes et anglo-saxonnes, ont été homosexuels. Sa biographe ne le croit pas. Le secret il y a, si passion il y a eu, ce que personnellement je crois que passion il y a eu, se trouve dans des lettres que nous ne lirons certainement jamais.
C'est donc Maurice Edgar Coindreau, le traducteur français, qui a découvert Flannery O'Connor. Enfin, elle était déjà peut-être un peu connue.
Elle a eu la bourse Fulbright, elle a eu des bourses Rockefeller, elle a eu des bourses, elle a eu un petit peu d'argent. C'était d'autant plus utile qu'il faut se souvenir que Flannery, un, n'était pas riche, et deux, que la sécurité sociale n'existant pas en Amérique, dès que Flannery, qui est tombé malade très jeune, gagnait 4 sous, ça filait en cortisone ou dans ce, je crois que ça s'appelle HSP, cette espèce de drogue effroyable qu'elle devait prendre tout le temps, qui coûtait la peau des fesses, je m'excuse de parler comme ça, et que tout l'argent gagné par sa plume lui ont servi à survivre. Mais la grande notoriété littéraire, le fait que brusquement, elle a été prise très au sérieux comme Faulkner, qu'elle a été considérée non pas comme un écrivain populaire ou comme un Caldwell ou comme une rareté, quelque chose de pittoresque du Sud. Ça, elle le doit en grande partie à Maurice Coindreau. Et quand M. Coindreau est venu aux États-Unis chez elle, sa correspondance en fait foi, elle est assez bouleversée parce qu'elle se rend compte qu'elle saute. Elle s'est rendue compte qu'elle valait la peine de sauter une étape et de passer la classe au-dessus. Mais là, elle se rend compte que c'est fait. Parce que Paris, Gallimard, tout ce qu'il y a de plus prestigieux, attention, pas au point de vue argent, elle a gagné très peu d'argent en France. Ses traductions françaises se sont très médiocrement vendues. Il n'y a qu'un an qu'elle est en livre de poche en France. Son film n'a pas très bien marché à Paris. Ça, il faut voir les faits. Mais elle avait la reconnaissance de l'intelligentsia parisienne, française, dirons-nous. Avant l'Amérique, ça, c'est évident.
Comment vivait-elle chez elle?
La première chose qui m'a frappée quand je l'ai vue, ce qui devait être très douloureux pour une femme qui n'était pas particulièrement féministe, qui je crois même ne l'était pas du tout, qui dans sa correspondance a cet aveu candide, je me suis toujours demandé ce que c'était que d'être une femme. Finalement, pour moi, ça ne signifie pas grand-chose. Je serais un homme, est-ce que je serais différente? qu'est-ce que c'est que cette histoire de sexe et qu'est-ce que j'ai à y voir là-dedans, qui était un petit peu cette étrange innocence qu'elle avait, qui n'est pas une innocence non passionnée, tant s'en faut, mais cette espèce de candeur qu'elle avait à l'égard du problème de sexe. Mais sa maladie a eu cet effet effroyable, et je crois particulièrement pour une femme, de la transformer en demi-monstre, ou peut-être en monstre. Après avoir longuement correspondu avec elle, avoir vu quelques photos d'elle tout de même, comme elle était relativement célèbre, je l'ai rencontrée pour la première fois à Paris, en 1900, je ne voudrais pas dire de bêtises, en avril 1958. Et je me suis trouvée devant quelqu'un, devant une jeune femme, presque chauve, due à la cortisone, au visage obèse et gonflé, également dû à la cortisone, avec des taches un peu rouilles sur la peau, l'œil admirable d'un bleu très dur, d'un bleu de paquette gauloise, mais bouffé par les joues, presque flétri par les joues, l'œil était mangé, on ne le voyait presque plus, et un corps qui était un mélange de maigreur squelettique, les poignets, les bras, les jambes, les chevilles, et d'obésité. Il était impossible pour une jeune femme de ne pas souffrir de cet état-là. Or, après avoir eu le choc effroyable en entrant dans cette chambre de l'hôtel, de voir cet être que j'admirais beaucoup, que j'avais tutoyé, avec qui j'avais plaisanté depuis 2 ans en correspondant, de voir cette chose sur le lit, au bout de 10 minutes, je l'avais oublié, parce qu'elle m'a dit « Eh ben oui, je suis comme ça ». Et puis qu'elle m'a fait une de ces plaisanteries énormes, tragiques et désopilantes dont elle avait le secret, et que tout de suite, j'ai fait attention à autre chose. Et qu'en partant, en la quittant, quand j'ai rencontré après des gens qui me disaient « N'est-ce pas tragique ?», je disais « De qui parlez-vous ? De quoi parlez-vous ? Elle est splendide et qu'est-ce qu'elle est drôle ?» Donc, on oubliait très vite, et je crois qu'elle arrivait à force d'énergie, de ténacité, de confiance en son génie, et sa dimension mystique de confiance en Dieu, de vaincre l'angoisse que moi, à sa place, j'aurais, que n'importe qui, je crois, aurait ressenti, l'angoisse qui devait aussi l'habiter, ne fût-ce qu'en se regardant dans la glace, parce qu'elle avait en 58, elle n'est morte qu'en 63, mais en 58, elle avait tout de même la mort peinte sur le visage.
La route les surplombait de quelques 10 pieds, et ils ne voyaient que la cime des arbres qui se trouvaient de l'autre côté. Derrière le fossé où ils étaient assis, il y avait d'autres arbres, hauts, sombres, serrés. Bientôt, ils aperçurent une voiture assez loin, au sommet d'une colline. Elle descendait doucement vers eux, comme si ses occupants les observaient. La grand-mère se remit sur pied et des deux bras fit de grands gestes pour attirer leur attention. La voiture continua d'avancer lentement, disparut dans une courbe, et reparut, roulant plus doucement encore au sommet de la côte d'où ils avaient fait la culbute. C'était une grosse voiture noire, un peu cabossée. Elle ressemblait à un corbillard. Il y avait 3 hommes à l'intérieur. Elle stoppa juste au-dessus d'eux, et pendant quelques minutes, le conducteur les observa d'un regard fixe, sans expression, en silence. Puis, il tourna la tête et marmonna quelque chose aux 2 autres qui descendirent. L'un était jeune et corpulent, il avait un pantalon noir et un sweater rouge orné sur le devant d'un étalon en relief. Il passa derrière eux et vint se placer à leur droite, et resta là, le regard vague, la bouche entr'ouverte en une espèce de grimace molle. L'autre portait un pantalon kaki, une veste à rayures bleues et un chapeau gris si enfoncé qu'il lui cachait presque tout le visage. Il alla se placer à leur gauche, sans se presser. Ni l'un ni l'autre ne disait mot. Le conducteur descendit de la voiture et resta à côté sans cesser de les regarder. Il était plus âgé que les 2 autres. Ses cheveux commençaient à grisonner, il portait des lunettes à monture d'argent qui lui donnaient l'air d'un universitaire. Il avait le visage marqué et il ne portait ni chemise ni gilet de corps. Son blue jean était trop étroit, trop étroit pour lui, de surcroît, et il tenait à la main un chapeau noir et un revolver. Les deux autres étaient armés aussi.
On a eu un accident ! On a eu un accident !
La grand-mère eut le sentiment bizarre que l'homme à lunettes ne lui était pas étranger. Son visage lui était même presque aussi familier que celui d'une très vieille connaissance, sans qu'elle parvînt pourtant à l'identifier. Il s'éloigna enfin de la voiture et entreprit de descendre le talus en posant les pieds avec précaution pour ne pas glisser. Il avait des chaussures Havane et blancs et pas de chaussettes. Ses chevilles étaient rouges et minces.
Bonsoir. Ah, je vois que vous êtes payé un joli petit saut.
Nous avons fait 2 tonneaux.
Un seulement. Nous avons vu comment ça s'est passé. Hiram, essaye leur voiture et vois si elle marche.
Pourquoi vous avez ce pistolet? Qu'est-ce que vous voulez fabriquer avec votre feu?
Madame, voudriez-vous dire à ces enfants de s'asseoir à côté de vous? Les enfants, ça me rend nerveux. Je veux vous voir tous assis là, où que vous êtes!
Et pourquoi que vous nous commandez ce qu'il faut qu'on fasse?
Derrière eux, la ligne noire des arbres s'ouvrait comme une bouche d'ombre.
Venez ici, mes petits.
Bon, maintenant écoutez, hein. Nous sommes dans une drôle de situation. Nous sommes...
Ah!
La grand-mère se releva d'un bond et dévisagea l'homme un moment.
Vous êtes le désaxé. Je vous ai reconnu tout de suite.
Oui, ma petite dame.
Dit l'homme en ébouchant un sourire, comme si, malgré tout, il n'était pas mécontent d'être reconnu.
Mais serait bien mieux valu pour vous tous que vous m'ayez pas repéré, ma petite dame.
Bellet tourna vivement la tête vers sa mère et lui dit quelque chose qui choqua même les enfants. La vieille dame se mit à pleurer et le désaxé rougit.
Madame, faut pas en faire une maladie. Ça arrive qu'un homme dise des choses qu'il pense pas. Je crois pas qu'il voulait vous causer de cette façon.
Vous ne tireriez pas sur une dame, n'est-ce pas?
Demanda la grand-mère en sortant un mouchoir propre de sa manche pour s'en tamponner les yeux. Le désaxé de la pointe du soulier fit un petit trou dans la terre, puis le reboucha.
Ça me coûterait d'avoir à faire ça.
Écoutez... Je sais que vous êtes un brave homme. Vous n'avez pas l'air commun. Je sais que vous venez sûrement d'une famille bien.
Eh oui, madame. Il n'y avait pas mieux sur terre.
Son sourire découvrait une rangée de solides dents blanches.
Dieu n'a jamais créé une femme mieux que ma mère et papa avait un cœur en orphin.
Le garçon au sweater rouge était venu derrière eux, pistolet à la hanche. Le désaxé s'assit sur ses talons.
Occupe-toi des enfants. Bobby, tu sais qu'ils me rendent nerveux.
Il regarda tous les 6, serrés les uns contre les autres. Il semblait embarrassé, comme s'il ne trouvait rien à dire.
Il n'y a pas un nuage dans le ciel. Hein? Je vois pas le soleil, mais je vois pas de nuage non plus.
Oui. C'est une belle journée. Écoutez, vous ne devriez pas prendre ce nom de désaxé, parce que je sais que dans le fond, vous êtes un brave garçon. Ça saute aux yeux.
Silence ! Que tout le monde la ferme. Me laisse m'occuper de ça.
Il avait pris la position du coureur prêt à bondir pour un sprint, mais il restait sur place.
Je suis très touché, madame.
Et il traça un petit cercle sur le sol avec le canon de son revolver.
« Ça prendra une demi-heure pour réparer ce chignol !»
cria Hiram en levant la tête de dessous le capot.
« Dac, mais d'abord emmène-les avec Bobby Lee faire un petit tour là-bas, lui et le gosse. »
dit le désaxé en désignant Bellet et John Wesley.
« Les gars ont quelque chose à vous demander. Ça vous ennuierait d'aller faire 2 ou 3 pas dans le bois avec eux ?»«
Écoutez... Nous sommes dans une situation terrible. Personne ne s'en rend compte.
Ses yeux avaient pris le bleu intense des perroquets de sa chemise. Il semblait pétrifié. La grand-mère leva la main pour remettre en place le bord de son chapeau, comme si elle allait accompagner son fils dans le bois, mais le bord du chapeau lui resta à la main. Elle le regarda une seconde d'un air stupéfait, puis le laissa choir à terre. Hiram, fit l'abbé Bailey en le tirant par le bras comme s'il aidait un vieillard. John Wesley prit la main de son père. Ils se dirigèrent vers le bois. Bobby Lee ferma la marche. Comme ils arrivaient à la lisière pleine d'ombre, Bailey se retourna, s'appuya contre le tronc gris et nu d'un pin et cria
« Je reviens dans une minute! Maman! Attends-moi! »
« Reviens! Reviens immédiatement!
Bailey! Mon petit !»
Mais elle s'aperçut qu'elle regardait le désaxé accroupi devant elle.
« Je sais bien que vous êtes un bon garçon. Vous n'êtes pas du tout commun. »
« Non, je suis pas bon. »
dit le désaxé comme s'il avait soigneusement pesé les affirmations de la grand-mère.
« Mais je suis pas non plus ce qu'il y a de pire sur la terre. Papa disait que j'étais pas de la même race que mes frères et sœurs. Vous savez qu'il disait, il y en a qui passent toute leur vie sans jamais se poser de questions, et il y en a d'autres qui veulent toujours savoir le pourquoi et le comment. Ah, c'est le cas de ce garçon. Il fourra son nez partout. »
Il mit son chapeau noir et brusquement leva les yeux. Puis, il regarda vers les profondeurs du bois comme s'il était très gêné une fois encore.
Je regrette d'être sans chemise devant vous, mesdames.
Et sa tête s'enfonça un peu dans ses épaules.
Et on a enterré les vêtements qu'on avait quand on s'est défilé et on a fait aller en attendant de trouver mieux. On a emprunté cela à des gens qu'on a rencontrés.
C'est très bien comme ça. Bailey a peut-être une chemise de rechange dans sa valise.
Je vais m'en rendre compte tout à l'heure.
Mais où l'emmène-t-il?
Et papa aussi était un type pas ordinaire. Il n'y avait pas moyen de le rouler. Pourtant, lui n'a jamais eu d'ennui avec les autorités. Il avait le chic pour les posséder.
Vous aussi, vous pourriez être honnête si vous vouliez faire rien qu'un petit effort. Comme ce serait magnifique d'avoir une vie bien rangée, bien comme il faut, et de ne pas penser tout le temps qu'on vous pourchasse.
Le désaxé continuait à gratter le sol avec le canon de son revolver, comme s'il était plongé dans ses pensées.
C'est vrai, madame. On a toujours quelqu'un à ses trousses.
La grand-mère remarqua la minceur de ces hommes plates qui semblaient saillir de derrière le chapeau. Elle s'était levée et le dominait maintenant.
Est-ce que vous faites quelquefois votre prière ?
Elle vit le chapeau noir bouger entre les omoplates.
Jamais.
Il y eut un coup de pistolet dans le bois, suivi presque immédiatement d'un second. Puis, tout fut silence. La tête de la grand-mère pivota vers le bois. Elle entendit la rumeur du vent qui glissait dans les cimes des arbres, comme une longue aspiration voluptueuse.
Bailey, mon petit!
Hector Bianciotti, dans un de ses textes de conférence, Flannery O'Connor explique qu'elle avait toujours eu envie de faire une œuvre comique, mais que le comique, c'est une question de vie ou de mort.
Ah oui, c'est très beau, je ne me souvenais pas de ça. C'est l'évidence de l'âme humaine, le monstrueux physique. Et puis, le monstrueux physique parle d'une injustice primordiale, n'est-ce pas? Je crois que la douleur est une injustice, la difformité est une injustice. Je crois que la beauté aussi est une injustice.
Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment parfois que les excès de Flannery O'Connor annulent l'effet du monstrueux? On a l'impression que le monstrueux devient beau finalement, parce que comme tout est systématiquement laid et horrible, que tous les gens sont laids, ils ont toujours une difformité quelconque, ça finit par être presque le langage du normal.
Je ne l'ai pas ressenti comme ça. Il n'y a pas seulement des êtres monstrueux ou handicapés. Elle n'a pas dû se proposer de faire une parabole. Vous vous souvenez de cette nouvelle où toute une famille part en vacances avec la grand-mère et le petit chat que la grand-mère cache dans un panier parce que le fils qui conduit la voiture serait furieux de savoir qu'elle a pris le chat, etc. Et tous ces gens se préparent avec un très grand optimisme à prendre une route au lieu d'une autre. Et puis, ils se trouvent en face, arrêtés par un criminel qui lui-même en fuite, qui s'appelle lui-même, ce qui est très curieux, s'appelle lui-même le désaxé. Et qu'il les tue un par un, et qu'il les tue tous, n'est-ce pas? C'est-à-dire, cette nouvelle, qu'est-ce qu'il me dit? L'optimisme est toujours perdant. Le monde court à sa perte, toute vie court à sa perte, et plus on est optimiste, plus la vie est choquante.
Mais ce pessimisme fondamental, il est dans toute l'œuvre. Si vous pensez à la nouvelle, par exemple, de la petite fille avec son grand-père,
oui,
qui finit par le meurtre de la petite fille.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous croyez que c'est un sacrifice, au sens religieux du terme?
Non, mais est-ce que ce n'est pas un symbole, justement, de l'échec a priori, de l'avenir qui est complètement barré?
Oui, c'est possible, mais je crois qu'elle n'est jamais consciente de ce symbole. Elle dit une chose très juste, quand on commence à écrire un univers de fiction, il y a toujours plusieurs nouvelles à écrire, ou plusieurs romans à écrire. Le devoir de l'écrivain, et sa seule possibilité de réussite, c'est d'en écrire qu'un seul ou une seule de nouvelles. C'est-à-dire qu'elle laisse toujours, ce qui est assez extraordinaire chez elle, c'est qu'elle qui est croyante, qui a possède une foi, elle ne l'impose pas a priori, comme peut l'imposer avec un autre succès rhétorique et merveilleux, Claudel, catholique. Non, elle ne l'impose pas sa foi. Elle laisse une marge énorme au mystère. Je dirais même qu'elle a l'art d'épaissir le mystère. Dans une autre nouvelle, la paysanne dont la mère possède une voiture, et qui un jour est courtisée par un homme plus ou moins étranger et inconnu, et qui l'épouse, et on se rend compte à ce moment-là qu'elle l'épouse rien que pour la voiture. Et il part en voyage de noces, elle habillée encore en fiancée, etc. Et à un certain moment, il la largue en pleine route, il continue. On ne saura jamais quel a été le mobile de cet homme. On connaît la mère, on connaît la fille, qui était déjà presque une vieille fille, qui voulait se marier, qui a été séduite par le premier homme qui lui a fait des avances. On ne saura jamais de l'homme. Qui était l'homme? D'ailleurs, elle raconte, il dit qu'une tante à elle lui disait toujours, parce qu'on avait fait une adaptation à la télévision.
Oui, et qu'ils ont ajouté une fin.
Ils ont ajouté une fin. L'homme prend la fuite dans sa voiture et puis à un certain moment il revient, il la prend et il continue tous les deux en éclatant de rire, n'est-ce pas? Et alors la tante à elle était très très contente parce que c'était comme ça que les choses devaient finir.
Mais est-ce que ça ne prouve pas abondamment que le fameux réalisme de Flannery O'Connor, c'est quand même très formel, c'est-à-dire que tout de suite, en fait, la véritable dimension romanesque de Flannery O'Connor intervient, parce qu'à partir d'une réalité qu'elle décrit minutieusement, c'est tout de suite un monde qui lui est propre. Et
qu'est-ce que c'est que le réalisme? Je ne sais plus, là, dans le cas de Flannery O'Connor, non? Parce qu'elle s'applique tellement à décrire la réalité, comme la réalité est tellement mystérieuse, la partie de mystère apparaît.
Elle décrit rarement la nature, si vous remarquez bien les choses. La nature n'intervient que par quelques éléments, par exemple le ciel, les forêts, les profils des arbres.
La nuit, la lune.
Évidemment, il y a les personnages humains qui sont toujours camper avec force, et bon, on se dit que c'est plus que réaliste, ça.
Oui, mais je n'enfermerai pas. Je veux dire, Flannery O'Connor, on peut dire qu'elle n'est pas un écrivain fantastique. Donc tout ce qui n'est pas fantastique, vraiment, c'est plus ou moins réaliste. Je ne pense pas qu'elle choisisse des éléments pour faire vrai. Elle, au contraire, son réalisme exige que parfois elle exagère un aspect ou du personnage, c'est-à-dire toujours de la nature, parce que l'être humain fait partie de la nature. Elle arrondit les angles, elle rend plus exemplaire les cas. Donc c'est là où le réalisme s'arrête. Parce que si elle se tenait uniquement à la transcription de ce qu'elle observe, ça serait une chose de genre tranche de vie effilochée. Tandis que dans les nouvelles de Flannery O'Connor, on sent vraiment que la chose est achevée. Il y a quelque chose d'implacable. On se dit, justice est faite, on ne sait pas sur quoi, mais c'est le dénouement. Quelque chose se dénoue.
Les héros de Flannery O'Connor ne sont pas des femmes. C'est les héros qu'elle aime, en tout cas. Parce que les personnages de femmes qu'elle présente sont toujours des personnages grotesques, ce sont les grosses dondons insupportables avec leurs bigoudis sur la tête et les horreurs qu'elles ont dans la tête à longueur de journée. Et les seuls personnages finalement où elle se reconnaît, ce sont quand même des personnages d'hommes.
Mais je crois qu'elle ne s'identifie pas facilement aux personnages, parce que si on parle des femmes, du ridicule des femmes, je veux dire, les hommes, ce sont de telles canailles qu'on ne peut pas dire qu'elle s'identifie non plus avec eux, avec les hommes. Même ce sont des canailles bornées, bêtes, non, ce sont des êtres en général très rustres, malins, mais malins, je veux dire, dehors la loi, enfin.
Bien sûr, c'est ce qui est frappant justement, parce que le personnage de la sagesse dans le sang, il est à la fois pathétique parce qu'il est tellement désarmé dans la vie et qu'il est un perdant, mais en même temps c'est un criminel né, enfin on s'en aperçoit tout de suite.
Je crois que l'univers de Flannery O'Connor est un univers absolument fermé, clos. Il y a quelque chose d'enfer, non? C'est pourquoi le personnage me touche beaucoup, parce qu'elle était croyante. Et il y a presque une contradiction entre son œuvre et cette croyance, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il a eu le courage de montrer l'homme sans l'améliorer par l'image du rachat divin, n'est-ce pas? Une chose que j'aurais beaucoup aimé parler avec elle, c'était justement sur le Christ, non, sur la promesse de la résurrection du corps, parce que finalement c'est la seule religion qui promet l'essentiel, la résurrection du corps, ce que nous sommes. Et en même temps, on dirait que le Christ est le premier des grands prophètes qui transgresse la loi de l'univers. J'aurais beaucoup aimé parler avec elle de ça. C'est pourquoi elle met un personnage très présent. Je viens à la première question sur le fait si c'était important de connaître les personnages pour comprendre son œuvre. Je crois que non, mais elle existe, elle est aussi un personnage de ses nouvelles. C'est un personnage extraordinaire, je l'imagine toujours, je ne sais pas pourquoi, mais je l'imagine dans une ferme basse, comme peut-être il n'y en a pas dans le sud des États-Unis. J'imagine avec des arbres, des oiseaux, les oiseaux, les pins blancs dont elle parle tant, n'est-ce pas, qui lui détruisent les jardins. Je l'imagine dans une chaise à bascule. Quelque part dans la maison, il y a la mer. Et puis, je l'imagine toujours en train de rire. Mais de rire, d'un rire un peu ironique, un peu méchant.
De se moquer d'elle-même aussi.
De se moquer d'elle-même. Il ne faut pas oublier aussi une chose extraordinaire, c'est qu'elle est allée à Lourdes. Je me demande si elle est allée vraiment pour demander à la Vierge d'être guérie, ou si elle est allée par curiosité.
Le train d'Asbury s'arrêta. En descendant du wagon, le jeune homme se trouverait au point précis où sa mère l'attendait. Il regarda par la vitre le visage mince et les yeux cerclés de lunettes, où rayonnait un large sourire qui se figea lorsqu'elle le vit s'avancer à grand peine dans le sillage du contrôleur. Le sourire avait instantanément cédé la place à une stupéfaction totale. Alors il comprit, pour la première fois, qu'il devait avoir l'air aussi mal en point qu'il l'était en réalité. Le ciel était d'un gris glacé et un soleil impressionnant, au pâle éclat doré, tel un mystérieux potentat venu de l'Orient, se levait derrière les bois noirs de Timberwarrow. Il enrobait de sa lumière étrange l'unique pâté des pauvres maisonnettes de briques et de bois. Asbury avait le sentiment qu'il allait assister à une transfiguration magique, que les plateformes des toits pouvaient d'un instant à l'autre devenir les tours altières de quelque temple exotique dédié à un dieu inconnu. L'illusion dura une minute à peine. Son attention se reporta sur sa mère. Elle avait poussé un petit cri et semblait atterrée. Il était ravi qu'elle eût, du premier coup, discerné la mort sur son visage. Ainsi, à 60 ans, elle allait prendre contact avec le réel. Si l'expérience ne la tuait pas, du moins lui offrirait-elle, supposait-il, une excellente occasion d'enrichir sa personnalité.
Quand vous l'avez rencontrée, Gabrielle Roulin, elle allait à Lourdes.
Elle allait à Lourdes, tout à fait contre son gré et en même temps avec cette ambiguïté qui lui était propre. Une vieille cousine avait légué de l'argent et exigeait dans son testament, souhaitait pour que Flannery guérisse de ce lupus érythématus, cette maladie étrange à l'époque en Amérique, dont était mort le père de Flannery. Je voudrais pas dire de bêtises, je crois que c'est à 31 ans, c'est peut-être à 32, père qu'elle a à peine connu, donc elle se savait parfaitement condamnée, et dans un délai relativement bref, ça elle n'avait pas d'illusion. Cette vieille cousine lui dit, seule Lourdes peut te sauver. Les médecins américains, avec l'honnêteté terrible qui les caractérise, disent à Flannery qu'elle n'a pas d'illusion à se faire, qu'elle est condamnée. Alors Flannery accepte sans aucune illusion ni espoir le voyage à Lourdes en se disant « pourvu que je ne fasse pas l'objet d'un miracle de photos dans Paris Match, d'émissions à la télé, de trucs à la radio, quelle horreur, pourvu que ça passe inaperçu ». Et lors de notre rencontre, je lui offre en français le livre de Zola sur Lourdes et je lui dis, c'est une plaisanterie de tout à fait mauvais goût, le plus grand miracle de Lourdes, c'est que tout le monde n'en meurt pas étant donné le degré de pollution de cette ignoble piscine. Personnellement, je ne suis pas catholique ni religieuse. Donc je lui dis ça, elle se gausse, trouve la plaisanterie merveilleuse, mais en bonne américaine, ayant horreur des microbes, elle me dit, en tout cas une certitude, c'est que je ne mettrai pas mes pieds dans cette eau-là. Et je ferai semblant de la boire, j'en boirai pas. Elle n'était pas folle non plus, Flannery, elle était mystique, mais elle n'aimait pas la comédie saint-sulpicienne. Elle a été avec une dame qui est sa biographe et sa mère, ils étaient trois dames à voyager, et les autres ne plaisantaient pas avec le caractère sacro-saint de la piscine. Et Flannery, finalement, a été forcée de s'y plonger, elle n'en est pas morte, elle n'en a même pas été malade. Un peu par discipline, un peu parce que les autres en auraient fait un drame, mais là j'ai une lettre aussi, tout à fait à son corps défendant et avec une certaine horreur sacrée.
Alors revenons à ce qu'on trouve dans son œuvre. Tout d'abord le grotesque, l'espèce de fascination pour un univers confus et brutal et ce qui donne à son œuvre toute sa violence caractéristique.
Elle avait le goût non seulement américain, mais de quelqu'un qui est en danger de mort tout de même depuis 22-23 ans, un âge où on pense bien sûr à la mort, mais on pense aussi au bonheur. Donc tout lui semblait burlesque. Voilà, le fait qu'elle soit là, le fait qu'elle ait du génie, le fait qu'elle soit condamnée à se traîner avec des béquilles et à vivre dans une petite ferme du Sud. Et elle adorait les fous, elle était, se sentait tout à fait en liberté, d'égal à égal. Et elle découpait toujours dans les journaux tout ce qui lui semblait absurde, grotesque, un cheval qui vient à l'église, toutes les choses loufoques de l'Amérique, la ravissait. À côté de son lit, elle avait un espèce de petit calvaire, les instruments du supplice de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu sait que c'était des choses avec lesquelles elle plaisantait pas, bon Dieu. Et qui étaient en réduction dans une bouteille, fait sans doute par un ivrogne, comme ça, des tout petits instruments de bois dans une bouteille. Même le côté galgette de la religion lui plaisait beaucoup. Elle était capable de rire de tout, de rire tout le temps, de se moquer d'elle-même. Pour Flannery, tout était à la fois sujet de respect, d'amour et de plaisanterie, parce que tout était tout de suite loufoque, monstrueux et très drôle. Et ce qu'elle vivait, fatalement, ça impressionnait son œuvre, où, entre le monstre de foire, le côté foire du trône est très important chez Flannery. Elle me demandait tout le temps de lui envoyer de France des choses énormes que j'avais vues, la femme à barbe multipliée par 10, des monstruosités que je pouvais rencontrer dans la rue ou ailleurs. Elle adorait ça. Ce qui est à la fois américain et ce qui s'explique aussi par la tragédie qu'elle vivait personnellement.
Mais alors, ça permet aussi de liquider pas mal de choses, de problèmes personnels, disons-nous. Parce que, par exemple, les descriptions de femmes, c'est vraiment hallucinant. Je relève au hasard, là. C'était une femme de petite taille dont la silhouette évoquait une urne funéraire. Ses cheveux couleur de mûre s'entassaient autour de sa tête comme de petits pains à saucisses. Il y a toujours le côté grotesque qui doit sauter aux yeux.
Flannery vivait avec une femme, la plupart de son temps, c'est sa mère. Et elle avait une autre femme qui s'appelait Louise, qui est une ancienne esclave, qui était une noire, très méprisée par la mère, plus âgée que Flannery, qui était un peu l'alter ego à tout faire, un peu l'oncle Tom, la tante Tom, si on peut dire, de Flannery. La mère de Flannery, qui n'a, je crois, jamais lu jusqu'au bout un des livres de sa fille, était désespérée par le fait que Flannery ne soit pas une belle du Sud, une espèce de Scarlett O'Hara. Une jeune fille en robe d'organdi blanc qui, sous les magnolias, aurait ravi tous les cœurs. C'était très exactement l'idée, elle n'a eu qu'un enfant, Madame O'Connor, l'idée que Madame O'Connor se faisait de sa fille Flannery. Et elle s'obstinait, vous me parlez des cheveux empilés comme petites saucisses, eh bien Madame O'Connor s'obstinait à faire des homemade permanentes, des permanentes faites à la maison à Flannery, qui avait, à cause de la courtisane, déjà fort peu de cheveux, et ses bigoudis enduites, produits, et en permanente archi-serrée qu'elle collait à sa fille, aboutissait non seulement à priver Flannery du peu qui lui restait de cheveux, mais à la orner d'une rangée de saucisses. Ça, je l'ai vu comme ça, non seulement personnellement quand elle était à Paris, parce que pour aller à Lourdes, il fallait être bien coiffée, et comme disait la mère, c'était des permanentes qui duraient à l'année. Et c'était particulièrement économique, parce qu'elle les faisait si serrées qu'on gagnait un an. Elles étaient faites pour durer 2 ans. Alors, cette vision infernale de la féminité, Flannery l'a subi. Grâce à sa force et au fait qu'elle n'était pas du tout complexée à cet égard-là et qu'elle ne respectait pas les hommes de façon inutile, enfin de façon exagérée, elle en riait beaucoup. Je crois qu'elle a dû en souffrir aussi beaucoup. Je le crois, mais elle ne me l'a jamais, bien entendu jamais dit. Ce que je sais, c'est qu'elle en riait énormément, qu'elle riait énormément de la prétention féminine. Que la robe d'organdi, Scarlett O'Hara, le côté autant d'emporte le vent, ça la faisait se tordre. Et peut-être un peu, elle n'a jamais su danser, même avant sa maladie, et elle a su, dès l'âge de 14 ans, 15 ans, qu'elle n'était pas la belle de l'école et qu'elle ne tournerait pas la tête de tous les garçons. Et elle a senti l'agacement maternel, et quand moi j'ai vu sa mère n'arrêtait pas de me dire, vous savez, si Flannery avait voulu, elle n'aurait pas été forcée d'écrire, elle aurait été une femme comblée avec mari et enfant, parce qu'elle pouvait se marier sans arrêt, elle avait toutes les propositions qu'elle voulait, et la mère a sous-estimé totalement l'œuvre de sa fille tout le temps. Et quand j'ai dit une seule fois à Flannery, mais comment est-ce que vous pouvez supporter ça, ça doit être très dur de continuer à écrire avec quelqu'un qui vous dit tout le temps, mais pourquoi tu ne te maries pas, Flannery m'a dit, je crois que c'est bon. Pour un écrivain.
Mais en même temps, on s'aperçoit que d'un bout à l'autre de son œuvre, il y a ce rapport entre la mère et sa fille, entre une mère et son fils, et il y a surtout ce rapport de l'enfant et des adultes qui est le comble de l'horreur.
Sans aucun doute, je crois qu'il ne faudrait pas être grand psychanalyste pour dire que le drame de Flannery, en fait, le drame, si drame il y a eu, parce qu'avec un tel génie, la mort et la maladie même n'étaient pas un drame. Mais la mort du père, ça oui. L'absence du père, ça oui. Dans sa vocation littéraire, le fait que le père aurait beaucoup voulu écrire, aurait-il pu, peut-être, peut-être pas, mais que le père avait essayé de commencer, que le père avait laissé des petits bouts de manuscrits et des beaux cahiers bien reliés, du beau papier sur lequel il espérait écrire. Et que la mère avait méprisé un petit peu le père, qu'elle considérait comme un faible. Il avait prouvé sa faiblesse en mourant très jeune. Donc, il est certain que Flannery, elle en a écrit, elle en a parlé, a toujours eu une nostalgie du père et que l'homme s'en tire relativement mieux, l'homme parent, que la femme qui est un monstre dévorant. très souvent, presque toujours. Mais elle n'avait aucune solidarité pour l'enfant. L'enfant innocent à la Rousseau, l'enfant saint, naïf, le chérubin attendrissant, irrésistible, ça non. Pour Flannery, le mal, le diable, pouvait être dans l'enfant comme dans l'adulte, et elle-même, étant restée extraordinairement enfant, par certains côtés, par cette violence qu'elle avait, par ce côté direct, par ce côté blagueur, blague atroce, ironie épouvantable, plaisanterie de plus parfait mauvais goût qu'elle avait, qu'elle adorait, était restée tellement enfant qu'elle gênait parfois les enfants, qu'elle se sentait gênée vis-à-vis des enfants, parce qu'elle jouait pas un chouïa la comédie. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi parfaitement naturel dans ce qu'elle écrivait que dans ce qu'elle était. Donc, quand on lui disait « Mon Dieu, les enfants ci ou les enfants ça », elle disait « Moi, j'aime pas du tout les enfants, je me sens tout à fait mal à l'aise avec les enfants, c'est des petits sauvages, moi j'ai rien avec les enfants, j'ai rien de commun ». En fait, elle en était une. Elle en est restée une par ce refus de tous les critères adultes de respectabilité, de ce qu'on fait et de ce qu'on fait pas, ce qu'elle ignorait complètement.
Toutes les valeurs se renversent. Quand elle va au fond du mal, tout d'un coup, ça devient l'amour et le désir du bien. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de sentiment du bien ni de sentiment du mal. Pour une catholique aussi passionnée que Flannery O'Connor, qu'est-ce que c'était ça, ce sentiment?
Elle s'en est expliquée, ou du moins elle a beaucoup écrit dessus. Bon, il y a le mystère de la création romanesque, et puis il y a le fait que Dieu persécute, Dieu est terrible, c'est presque un Dieu biblique, c'est beaucoup plus un Dieu juif qu'un Dieu chrétien, dans la mesure où elle ne se fait pas du tout une image édulcorée de Dieu, et Dieu veut les hommes, et il les prend, et il les saisit. Dans un de ses contes, Dieu est même un porc, à un moment donné, un porc qui représente manifestement Dieu, un porc sauvage, s'échappe d'une porcherie et tue la bonne femme mécréante, qui est un peu Monsieur Homais, qui croit jusque-là et pas jusque-là, qui est pas une convaincue de Dieu, et qui, ayant bravé Dieu toute sa vie, va se faire écraser un porc qui manifestement représente Dieu. Ça peut être le soleil, ça peut être n'importe quoi. Et chez Flannery, il y a un côté Dieu terrible, et le héros de la sagesse et dans le sang est un homme qui refuse Dieu. Et Dieu l'accule à se rendre aveugle lui-même, à faire des choses insensées. Parce que Dieu se revanche, Dieu cherche, comme on dit, tu me cherches, celui qui ne croit pas. Et Dieu finit par avoir sa peau. Et il y a une espèce de férocité latente dans les romans de Flannery qui est absolument terrifiante. Et on lui dit, ben, où est-ce qu'il est le doux Jésus? Mais le doux Jésus, elle n'a rien en fiche, elle, finalement. C'est un Dieu terrible, redoutable, vengeur. Et encore une fois, pour raisonner de façon peut-être très simpliste, qui la ferait peut-être beaucoup rire, mais quand on pense à quelqu'un qui sait à 24-25 ans qu'elle est condamnée à mort, qu'elle en a peut-être pour 10 ans à vivre, et encore, va-t-on savoir, qui met les bouchées doubles et qui mène cette vie atroce avec cette mère à côté d'elle à essayer d'écrire vite l'essentiel, il est certain que le Dieu persécuteur devait avoir une intensité particulièrement forte.
Il s'endormit dans son jonc au paisible coin du cimetière familial où bientôt il reposerait. Quelques instants plus tard, il vit sa dépouille qu'on y emportait lentement, tandis que sa mère et sa sœur, assises dans la véranda, suivaient la scène d'un œil indifférent. Alors que le cercueil traversait le bâtard d'eau, elles virent le cortège funèbre se réfléchir sens dessus-dessous, dans les eaux de l'étang. Un homme mince, en vêtements noirs, où l'on discernait le col des prêtres catholiques, suivait la bière. Il avait un visage mystérieux et taciturne, où se mêlaient subtilement l'ascétisme et la corruption. On fit glisser le cercueil d'Asbury dans une petite tombe à flanc de coteau, et les assistants, qu'on ne pouvait identifier, gardèrent un instant le silence, puis se dispersèrent par les prairies crépusculaires. Le jésuite se dirigea vers un arbre mort et s'attarda en ce lieu solitaire afin d'y méditer et d'y fumer un instant. La lune monta dans le ciel et Asbury eut conscience d'une présence courbé sur lui et d'une douce chaleur sur son visage glacé. Il savait que c'était l'art venu pour le réveiller. Et il se dressa, et il ouvrit les yeux. En face de la colline, toutes les lumières étaient allumées dans la maison de sa mère. L'étang noir était piqueté de minuscules étoiles à l'éclat de nickel. Le jésuite avait disparu. Partout autour de lui, les troupeaux de vaches se déployaient pour paître au clair de lune. Et l'une d'elles, haute, blanche et mouchetée de taches violemment contrastées, vint doucement lui lécher la tête comme elle l'eût fait d'un bloc de sel. Il s'éveilla en tremblant et découvrit que ses draps étaient trempés de sueur nocturne. Il s'assit, frissonnant dans les ténèbres, et songea que le dénouement était proche. Il plongea son regard dans le cratère de la mort, et l'esprit tourbillonnant retomba sur son oreiller.
Roger Gonyer, ce texte est un exemple saisissant de l'intensité, de la force, du rythme qui anime les nouvelles de Flannery O'Connor.
Oui, et d'ailleurs, on se demande où elle va chercher tout ça, pour employer une expression familière, parce que quand on connaît sa vie, enfin, on se dit que c'était une femme fragile, qui a vécu peu de temps, qui ne sortait sûrement pas beaucoup, étant donné sa maladie, sa mauvaise santé. Et pourtant, elle connaît très très bien, et elle sait faire parler les gens les plus divers, enfin, tous ces paysans du sud, les charlatans, les voyous, les bandits aussi bien, les petits propriétaires terriens, leurs domestiques. C'est inimaginable, quelle est cette expérience. Mais elle a dit elle-même, dans le fond, je crois que sa phrase exacte, c'est quiconque a survécu à son enfance a assez d'expérience pour alimenter toute une œuvre, enfin, finalement. Et donc il faut croire qu'elle puisse ça en elle-même.
Et faites-vous une différence entre la romancière et l'auteur de nouvelles?
Moi, je pense qu'elle est meilleure auteure de nouvelles que romancière. Mais là, si vous permettez, je voudrais faire une parenthèse, parce que chaque fois qu'il s'agit de nouvelles écrites par des écrivains américains, je me pose une question. Par exemple, récemment, on a pu lire la correspondance de Faulkner. Et on voit que Faulkner écrivait des nouvelles uniquement pour gagner de l'argent, pas du tout parce qu'il avait envie d'écrire des nouvelles, qu'il appelle ça de la sous-littérature. Et en effet, il y avait un marché aux États-Unis, il y avait les magazines comme Saturday Evening Post ou Collier's ou Esquire qui payaient très cher les nouvelles, et c'était pour les écrivains souvent un moyen de vivre. Un autre exemple, c'est Scott Fitzgerald, qui lui, alors, écrivait des nouvelles de son mieux, mais quand il voulait les vendre à un de ses magazines, à un grand public, il les abîmait exprès. Il les rendait plus faciles et moins bonnes. Ce que je ne sais pas du tout dans le cas de Flannery O'Connor, c'est si elle écrivait ses nouvelles pour des magazines ou si elle les écrivait pour elle-même. Je n'ai pas l'impression qu'elle les écrivait pour des magazines, parce qu'il me semble qu'elle est au contraire au sommet de son art dans ses nouvelles.
Elle s'est expliquée à ce sujet. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ce n'était pas fait pour vous déplaire, non? Que l'auteur soit, au sommet de son art dans ses nouvelles.
Bien, je crois que c'est à la fois plus facile et plus difficile de faire des nouvelles. C'est plus facile parce que, bon, c'est quand même un moment de vie très court et très intense, et on peut... c'est plus facile de trouver un sujet de nouvelle et puis de s'y mettre, enfin. Mais c'est très difficile de les réussir, qu'elles soient très bonnes. Et ça alors, justement, les nouvelles de Flannery O'Connor, je n'en connais pas qui soient ratées. Et un certain nombre sont des chefs-d'œuvre absolus.
Elle a dit d'ailleurs, quelque part, qu'elle trouvait que le roman était une forme romanesque plus diffuse que les nouvelles, parce que dans le roman, on avait le temps de flâner en chemin, tandis que la nouvelle requiert un moindre espace pour s'accomplir, donc nécessite une plus grande intensité.
Oui, alors je me demande si ça ne correspond pas, justement, à sa réussite dans la nouvelle, à ce qu'elle cherchait à faire, vraiment. Bon, il ne faut pas oublier qu'elle est une catholique, et une catholique très convaincue et très militante, et qui veut, dans le fond, donner un choc au lecteur, parce qu'elle écrit. Et c'est grâce à la nouvelle qu'elle arrive à donner ce choc, sans doute. Elle le dit très bien, il y a l'histoire là, qu'elle raconte, mais il y a derrière les faits, les anecdotes, les dialogues qui sont souvent même très vulgaires, qui sont empruntés parfois au jargon du Sud. Il y a un mystère derrière tous ces faits. Enfin, elle s'exprime au moyen de faits, de choses vues et de sensations, mais c'est pour dire quelque chose qui est au-delà, qui est un mystère. Et ce mystère, évidemment, c'est un mystère... métaphysique, et à travers les objets, à travers les autos par exemple, à travers les personnages qui sont souvent des grotesques volontairement, eh bien, ce qu'elle cherche peut-être, c'est que le lecteur arrive à une interprétation anagogique, c'est-à-dire qu'il s'interroge sur les rapports de ses personnages ou ses propres rapports avec la vie divine. Et c'est pour ça qu'elle a une telle violence, finalement, et c'est cette violence qui convient très bien au genre de la nouvelle.
Et vous avez dit que c'est vraiment hallucinant de voir la force avec laquelle elle peut saisir une certaine réalité et puis une réalité qui est très profuse en même temps.
Oui, une chose qui m'a frappé beaucoup, par exemple, c'est cette fameuse nouvelle, enfin, qui s'appelle « Braves gens de la campagne ». Mais enfin, si on veut la résumer, c'est l'histoire de cette fille solitaire agrégée de philo qui se fait voler sa jambe de bois par un vendeur de Bible, qui est un jeune voyou, en fait. Eh bien, dans les textes auxquels vous faites allusion, elle s'est expliquée très très bien sur la façon justement dont elle a mené cette nouvelle. Elle commence à dire que quand elle a commencé à écrire, elle ne savait même pas que le garçon allait voler la jambe artificielle, mais qu'elle avait pris soin qu'on soit informé de tous les rapports de chaque personnage avec cette jambe artificielle et les problèmes que causait à leur vie ou à la vie de cette fille la jambe artificielle. Mais ensuite, pourquoi ensuite tout s'est enchaîné si bien et pourquoi cette nouvelle tient debout avec une telle force et une telle cohérence? Eh bien, elle dit, je crois que la réponse se trouve dans ce que Maritain nomme l'habitude de l'art. C'est-à-dire que lorsqu'on écrit un récit romanesque, la personnalité tout entière s'y engage. Et en effet, on a l'impression que tout ce qu'elle touche, et ce qu'elle touche, elle, c'est la réalité la plus triviale du sud des États-Unis et de la région de Géorgie où elle vivait, eh bien, tout cela devient de l'art parce qu'elle a pas seulement une pratique de l'art, mais elle l'a dans le sang, enfin, absolument.
À aucun moment, elle ne se laisse aller, si on peut dire, à une espèce de sentiment pour elle-même, pour ce que ça pourrait être son moi. Elle est très, très dure avec les écrivains qui s'occupent beaucoup trop de leur sensibilité. Elle trouve qu'un écrivain doit être avant tout un observateur de la réalité extérieure à lui-même.
Oui, mais je pense quand même que tout ça, ce sont des masques et que derrière des personnages qui ont l'air complètement vus de l'extérieur et même vus par un observateur assez féroce, comme cette pauvre fille à la jambe de bois, eh bien, je me demande si parfois elle n'a pas quand même été chercher des peintures en elle-même. Et puis alors aussi, je pense que ce qui contredit un peu là son propos, c'est qu'il est facile de retrouver des thèmes qui reviennent tout le temps dans ses nouvelles. Donc ce sont des choses qui sortent vraiment de son âme et pas de l'observation, hein, c'est des choix qu'elle fait. Des thèmes par exemple, enfin, je ne sais pas, vous allez en dire peut-être...
Oui, justement le thème de la mère et de la fille, enfin du rapport, oui, rapport mère-fille et du rapport des femmes en général, de la présence des femmes comme des mégères, oui. Et comme un monstre de trivialité dans le monde. Enfin, c'est oui.
Et puis il y a un autre rapport aussi qui est très curieux, qui compense un peu celui du rapport mère-fille, c'est le rapport grand-père-petit-fils ou grand-père-petite-fille aussi, qui est très étonnant.
Ah oui, dans la nouvelle vue sur bois, c'est on aboutit au meurtre de la petite-fille, c'est horrible.
Absolument. Ou l'autre qui s'appelle le nègre factice, là, ah, où oui. Il y a aussi un... Enfin, ce sont des rapports amoureux, mais conflictuels, entre grand-père et petit-fils, ou grand-père et petite-fille. Alors ça correspond sûrement à quelque chose de très profond en elle, quoi.
Oui, est-ce que ce n'est pas ce qu'elle appelle justement le mystère, le sens du mystère chez un écrivain? C'est-à-dire qu'elle dit que la seule technique, c'est la peinture de la réalité extérieure, mais qu'il n'y a pas de fiction si on n'a pas le sens du mystère. Et qu'il faut cette force qui pousse l'écriture, et une force qui est incontrôlée, qu'elle refuse d'analyser par des méthodes scientifiques, la psychanalyse ou quoi que ce soit de ce genre, mais qui doit exister et qu'elle perçoit. Elle appelle ça le sens du mystère.
Certainement. Et puis alors il y a aussi un autre sens ou un autre sentiment dont elle est très consciente, elle en parle, et elle pense que c'est ça qui a fait la fortune littéraire du Sud, c'est ça qui fait qu'il y a tant d'écrivains, Faulkner en tête, dans le Sud des États-Unis, qui forment vraiment une sorte de, plus qu'une école littéraire, une nation littéraire à part. Elle dit que ça c'est la défaite. Et que si le Sud n'avait pas connu la défaite, il n'aurait pas eu cette floraison littéraire, que c'est ça qui libère, dans le fond, le génie littéraire. Et on voit que dans chacune de ces nouvelles, il y a presque toujours une défaite, enfin. Le grand-père, il croyait avoir conquis la petite fille, l'avoir ramenée du côté de sa race et non pas de celle de son gendre qui l'exècre. Et puis le dernier mot est à la petite fille qui lui dit que non, elle est de l'autre côté. Ou l'autre grand-père là, qui amène son petit-fils visiter Atlanta, eh bien, il va connaître une humiliation sans fin là, dans Atlanta devant le petit-fils et il aura beaucoup de mal à se faire pardonner par son petit-fils. Tous ces gens connaissent la défaite. Ou même dans Les Braves ne courent pas les rues, la grand-mère qui essaye de raisonner le criminel qui s'est trouvé sur son chemin par sa faute à elle, d'ailleurs, eh bien, c'est une défaite puisqu'elle va être tuée par ce criminel. Mais ce qui est formidable, c'est l'économie de moyens et l'art avec lequel c'est dit. Par exemple, dans Les Braves gens ne courent pas les rues, on a l'impression qu'on sait tout dès la première phrase. Hein, c'est la grand-mère ne voulait pas aller en Floride. Bon, alors on a l'impression c'est qu'il y a une donnée là. On dit, bon, voilà, il y a une grand-mère qui ne veut pas aller en Floride, les autres sûrement veulent y aller. Et un drame une comédie se noue. D'ailleurs, un drame et comédie se côtoient sans cesse. En fait, il va se passer beaucoup plus de choses que ça. Mais enfin, on voit, dès la première phrase, on voit la prodigieuse économie de moyens et comment. Ça va être une distance de nouvelle, et non pas la distance d'un roman qui va être utilisé par Flannery O'Connor.
Une chose m'a frappée, c'est que quand elle a expliqué cette nouvelle, et elle a dit que pour elle, ce qui avait été le moment où les choses s'étaient nouées, c'était le geste de la grand-mère. Parce que ce fameux geste, lorsqu'on vient d'assassiner toute la famille de la grand-mère, où elle touche le désaxé, elle lui dit enfin, qu'il est son fils. Une espèce d'effroi. Et elle dit qu'elle n'avait pas prévu ce geste-là et que ce geste fait partie pour elle du sacré.
Oui, c'est sûrement un geste sacré. Bon, appeler les gens mon fils, bon, c'est déjà une référence biblique, enfin, évangélique, enfin. Et on a toujours l'impression qu'à un moment donné, dans ces nouvelles ou dans ces récits, Flannery O'Connor veut nous faire toucher du doigt la grâce qui arrive sur un personnage, ou la damnation aussi d'ailleurs.
Quand on lui demande qu'est-ce qui vous pousse à écrire, il répond tout simplement le don, le talent. Et en s'excusant simplement après de paraître d'un orgueil monstre en disant cela. Est-ce que vous pensez qu'elle a le droit de le dire?
Alors, je pense qu'elle, elle a le droit. Et ça me fait penser justement à une chose qu'écrit Faulkner vers la fin de sa vie. Et tout à coup, il se met à réfléchir sur ce qu'il a fait et la façon dont il a vécu. Et il a vraiment vécu comme un fermier, puis isolé, coupé du monde littéraire en général, très isolé, ne voyant pas d'intellectuels. Et il se rend compte de l'œuvre qu'il a écrite et il dit très simplement et sans vanité finalement, oui, tout ça est sorti de moi, mais comment ça se fait? Ben, je devais avoir du génie, ouais, c'est pas possible. Enfin, eh bien, bon, c'est une réflexion très, très proche. Mais enfin, je crois que nous aimons tous assez et Faulkner et Flannery O'Connor pour penser qu'ils avaient le droit de dire ça.
Hector Bianciotti.
Plus on parle avec Flannery O'Connor, moins on s'explique les sentiments. Les sentiments qu'elle éprouvait, non, vis-à-vis de l'humanité, de cette humanité particulière qui sont ces personnages qu'elle enferme dans ce livre. Et puis, il y a cette fascination de Faulkner, n'est-ce pas? Et moi, je trouve que l'univers de Flannery O'Connor est beaucoup plus cruel que celui de Faulkner. Car chez Faulkner, il y a toujours, pour moi, à mon avis, ils sont comme pris dans un tourbillon. Le tourbillon, c'est l'imagination de l'auteur, c'est l'écriture de l'auteur, etc. Ils sont comme atténués. Leur réalité est atténuée par le tourbillon de cette littérature alcoolique, qui parfois n'a pas de centre véritable, hein, Faulkner. Non? Tandis que chez elle, les choses... Ce qui est vrai, c'est que tout semble d'une logique implacable et qu'on ne pourra jamais arrêter.
William Goyen, qui est un écrivain américain également du Sud, a écrit cette phrase que je trouve tout à fait magnifique sur Flannery O'Connor, sur le style de Flannery O'Connor, et il disait que C'est un style serré jusqu'à l'étouffement, aussi direct, aussi brutal que l'ordre donné à un peloton d'exécution de tirer sur l'homme debout devant le mur.
Oui, c'est formidable. D'ailleurs, on tire souvent chez Flannery O'Connor, non?
Et pourtant, il y a un espace quand même pour ce rêve. Pensez à la nouvelle de Greenleaf où il y a la première image, c'est l'image d'un taureau
les
derrière.
Taureaux, la nuit.
La nuit, comme ça, oui. Derrière les voiles, il y a la lune, il y a le taureau. Oui. Et c'est une image très forte parce qu'on ne sait pas du tout comment elle intervient. Et puis, c'est seulement à la fin de la nouvelle qu'on comprend.
Oui. D'ailleurs, ça, c'est une nouvelle aussi un petit peu à part, n'est-ce pas? Parce qu'elle fait une place à la description poétique. Parce que c'est très poétique, c'est très forte cette image, non? Quand je vous ai dit tout à l'heure en passant la nouvelle du taureau, je vous dis parce que je ne me souviens pas du tout de l'histoire de la femme, mais je me souviens, je n'oublie pas. Si on me parle de Flannery O'Connor, j'imagine toujours ce taureau dans la lierre, dans la nuit, avec la lune, etc. Bon, c'est une image très... très frappante. Non?
Oui, c'est d'autant plus frappant que c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que cette femme avec ses bigoudiers, tout ça, qui se réveille et qui ne sait pas en fait que c'est sa mort qu'elle regarde derrière la vitre, parce que c'est ce qui va arriver. Et le taureau sera la cause de sa mort et elle ne le sait pas du tout. Et elle est uniquement préoccupée de choses terre à terre, ce qui est extraordinaire.
C'est ça. Bon, voilà, on approche de quelque chose. Dans les nouvelles de Flannery O'Connor, le personnage principal rencontre toujours son destin. Je crois que ça, c'est très important. Je veux dire, dans tout roman, dans la vie aussi, mais dans tout roman, c'est très important où c'est l'homme, le personnage, qui se rend compte, qui trouve vraiment son destin, ou que le lecteur voit. À ce moment-là, le personnage s'est trouvé face à face avec son destin.
Au poste d'essence, un jeune blanc, l'air somnolent, s'approcha pour prendre ses ordres et Hazel lui demanda de remplir le réservoir, vérifier l'huile, l'eau et les pneus au cas où ils auraient besoin d'être gonflés. Tout cela parce qu'il avait un long voyage à faire. Hazel se présenta et dit qu'il était pasteur de l'église sans Christ et qu'il prêchait tous les soirs sur le capot de cette voiture, cette même voiture qu'il avait là sous les yeux. Il expliqua qu'il se rendait dans une autre ville pour y prêcher. Le jeune homme fit le plein d'essence, vérifia l'huile, l'eau et les pneus. Pendant qu'il travaillait, Hazel le suivait et lui apprenait les vérités qu'il fallait croire. Il lui dit qu'il ne fallait rien croire qu'on ne pût voir, tenir en main ou vérifier avec ses dents. Il lui dit que quelques jours auparavant, il croyait encore que le blasphème était la seule voie du salut. Mais qu'on ne pouvait même pas croire à cela, parce que ce serait impliqué alors qu'on croit à des choses contre lesquelles on peut blasphémer. Quant au Jésus qu'on disait né à Bethléem et crucifié sur le calvaire pour racheter les péchés des hommes, c'était là, dit Hazel, une idée trop ignoble pour qu'une personne saine d'esprit la pût garder en tête. Prenant alors le seau d'eau du jeune homme, il le frappa contre le sol cimenté pour accentuer ce qu'il disait. Il se mit à jurer et à blasphémer contre Jésus tranquillement, mais avec passion, avec une conviction telle que le jeune homme cessa de travailler pour le regarder. L'inspection terminée, le jeune homme dit qu'il y avait une fuite dans le réservoir à essence, deux dans le radiateur, et qu'un des pneus arrière durerait peut-être 20 miles, moyennant qu'il roula lentement. Il roula à vive allure jusqu'à la grande route, mais au bout de quelques miles, il eut la sensation de ne plus avancer. Des masures, des postes d'essence, des terrains de camping, des pancartes défilaient devant lui, ainsi que des granges abandonnées où s'écaillaient des réclames de tabac prisé « CCC ». Et même un écriteau « C'est pour vous que Jésus est mort » qu'il aperçut, et fit exprès de ne pas lire. Il avait la sensation que la route reculait véritablement sous lui. Il avait toujours su qu'il n'y avait plus de campagne, mais il ne savait pas qu'il n'y avait pas d'autre ville. Il n'avait pas fait 5 miles qu'il entendit une sirène derrière lui. Il se retourna et vit une voiture de police noire qui approchait. Elle roula à côté de lui, et l'agent qui s'y trouvait lui fit signe de se garer sur le côté de la route. L'agent avait un visage agréable, rouge, avec des yeux limpides et de couleur de glace fraîche.
Je faisais pas de vitesse.
Non? D'accord.
Je tenais ma droite.
D'accord.
Alors, qu'est-ce que vous me voulez?
C'est votre tête qui me revient pas, c'est tout. Vous avez votre permis ?
Votre tête me revient pas non plus. J'ai pas de permis.
Bien. Eh bien, j'ai comme une idée que vous n'en avez pas besoin.
En tout cas, même si j'en avais besoin, j'en ai pas.
Dites, ça vous ennuierait de conduire votre auto là-bas, jusqu'en haut de cette côte ? Je voudrais vous montrer la vue qu'on a de là-haut. On peut rien voir de plus joli.
Hazel haussa les épaules et mit son auto en marche. Si l'agent voulait discuter, il ne demandait pas mieux que de le faire. Il monta la côte, suivi de près par l'auto de la police.
Alors maintenant, hein, tournez-la face au talus. Hein. Vous verrez mieux comme ça.
Hazel plaça sa voiture face au talus.
Alors maintenant, il serait préférable que vous descendiez. On voit mieux de dehors.
Hazel sortit de l'auto et jeta un coup d'œil sur le panorama. Le talus, simple argile entraînée par les eaux, descendait d'environ 10 mètres jusque dans un pré à demi brûlé dans lequel se trouvait une vache, couchée près d'une mare. À quelque distance, il y avait une masure d'une seule pièce avec un busard perché, le dos voûté sur le toit. L'agent passa derrière la voiture et la poussa par-dessus le talus. La vache se releva en trébuchant et traversant le pré, s'enfuit dans les bois. Le busard alla se percher sur un arbre à la lisière du champ. L'auto s'arrêta, fit panache, et les trois roues qui lui restaient encore tournèrent dans le vide. Le moteur, projeté à l'extérieur, s'en fut roulé à quelques mètres, et diverses parties de la voiture s'éparpillèrent ça et là.
Les seuls qui n'ont pas d'auto n'ont pas besoin de permis,
dit l'agent en s'époustant les mains à son pantalon. Hazel resta un moment à regarder le paysage. Son visage semblait refléter toute la distance jusqu'au bout du champ. Et au-delà, toute la distance entre ses yeux et le ciel uniformément gris qui s'élevait, se perdait dans l'espace. Ses genoux fléchirent et il s'assit sur le bord du talus, les pieds ballants. L'agent, debout, le regardait.
Est-ce que je peux vous conduire ou vous vouliez aller ?
Un instant plus tard, il s'approcha un peu et dit :
Où c'est-il que vous vouliez aller ?
Il se pencha, les mains sur les genoux, et dit d'une voix inquiète :
Est-ce que vous alliez quelque part ?
Non.
L'agent s'accroupit et posa la main sur l'épaule de Hazel.
Et vous n'aviez pas dans l'idée de vous rendre quelque part ?
Hazel secoua la tête. Son visage resta immobile et il ne se tourna pas vers l'agent. Il semblait concentré sur l'espace. L'agent se redressa, retourna à sa voiture et, debout à la portière, regarda le dos et le chapeau de Hazel.
Alors, au revoir, hein ?
Il monta dans sa voiture et partit. Au bout d'un instant, Hazel se leva et prit la direction de la ville. Il lui fallut 3 heures pour y arriver. Il s'arrêta dans un bazar où il acheta un seau en fer blanc et un sac de chaux vive. Puis il rentra chez lui avec ses 2 emplettes. Arrivé devant sa maison, il s'arrêta sur le trottoir, ouvrit le sac de chaux et en remplit la moitié du seau. Ensuite, s'approchant d'un robinet près du perron, il remplit d'eau le reste du seau et monta les marches. Assise sur la véranda, la logeuse balançait un chat.
« Qu'est-ce que vous allez faire avec ça, Monsieur Mott ?»«
M'aveugler. »
That you would treat me right. Now you won't do nothing funny but fuss and fight. My mama, she told me when I left my home, son, be a good boy and leave bad women alone. Now my mama, she did. Papa, allow me on. I ain't got nobody teach me right from wrong.
voudrais, pour conclure, qu'on revienne à un article de Flannery O'Connor qui s'appelle « À la mémoire de Marie-Anne ». Si vous vous souvenez, il s'agit de l'histoire de cette petite fille qui a été très malade, qui a eu un cancer dès l'âge de 18 mois, qui a vécu jusqu'à l'âge de 12 ans et qui était soignée par une confrérie de religieuses. Et à sa mort, ces religieuses ont écrit à Flannery O'Connor pour lui demander de bien vouloir écrire l'histoire de la petite Marie-Anne.
Alors Flannery avait commencé par refuser parce qu'elle avait peur qu'on en fasse une espèce de pseudo-Bernadette de Lourdes, ou une petite sainte, quelqu'un de ravissant, d'exquis, d'irrésistible et de désolant. Et les enfants martyrs ne l'intéressaient pas du tout, et ils avaient qu'à être martyrs. Et du reste, elle reprenait volontiers à son compte la phrase de W.C. Fields, qui est « quelqu'un qui déteste les enfants, les petits chiens, les petits chats, et ne peut pas être tout à fait mauvais ». Donc elle avait refusé. Et puis, une des religieuses, très intelligente, lui dit « Cette petite fille avait tout de même des côtés étonnants, c'est qu'encore avant sa mort, elle demandait des énormes hot dogs sauce tomate et elle baffrait, elle avait une espèce d'appétit d'immense steak tartare ou hot dog. » Et ça, ça a retenu l'attention de Flannery. Alors là, ça, c'était sympathique, ça correspondait pas à l'image de la petite sainte. Alors là, par le biais de l'immense hot dog, elle s'y est intéressée.
Il y a, dans le début de son article, un moment de sincérité qui lui échappe, comme toujours, il y a des choses qui échappent comme ça dans tout ce qu'elle écrit, et où elle regarde la photo de cette petite fille et elle dit « Mais quelle horreur, mais je ne vais pas écrire un roman, et puis c'est tant mieux pour elle que personne n'écrive jamais un roman sur sa pauvre vie, etc. » Et puis elle regarde la photographie et elle dit « Mais tout de même, elle n'était pas belle, hein, ça, il faut le dire, que la maladie ne la rangeait pas, et tout ça. » Et on a l'impression, on se dit qu'après tout, bon, eh bien, au fond, c'est une réaction saine et normale. Il y a une espèce de pudeur à vouloir s'apitoyer sur cette souffrance. Et elle fait un effort après pour construire l'article. Elle ne parle plus du tout de l'enfant. Elle parle de ses religieuses, de leurs bonnes œuvres. Et elle raconte toute une histoire qui est à côté de l'histoire de cet enfant, à côté de l'enfant.
Oui, je suis sûre que la douleur vraie, la douleur inventée, l'horreur. Du reste, la douleur, finalement, bon, elle est, puisque le premier, enfin pas le premier, mais un des premiers contes qu'elle a écrit est une histoire monstrueuse. C'est une jeune paralytique qui espère découvrir l'amour, ou au moins se faire violer par un vendeur de Bible itinérant qui l'emmène dans une grange, et puis qui finalement fiche le camp avec les jambes de bois. Hein, Goodman, it's hard to find, c'est ça. Les braves gens ne courent pas les rues. C'est une histoire monstrueuse, du plus parfait mauvais goût, abominable, aussi sordide que, je sais pas moi, que les viols avec un épi de maïs chez Faulkner, ça donne froid dans le dos. Mais quand on rencontre une enfant qui souffre, il est certain que Flannery devait éprouver une impression, puisqu'elle a été une enfant qui souffre, bon sang. Elle devait éprouver un espèce de blocage.
Vous l'avez vue juste avant sa mort, la dernière année. Est-ce qu'elle avait encore des projets de livres, ou bien est-ce qu'elle avait le sentiment d'avoir terminé son œuvre?
Non, elle avait des très très grands projets, elle ne savait pas si elle serait capable de les accomplir, et au point de vue temps et au point de vue intellectuel, elle voulait échapper à l'étiquette d'écrivain grotesque ou écrivain baroque, elle voulait se décanter, si on peut dire, écrire autre chose et autrement, mais elle croyait qu'elle était condamnée de façon très brève, dans un délai vraiment très proche. Et quand je l'ai vue à Paris, elle m'a dit « Quoi qu'il arrive, tu viendras chez moi ». Parce que tu aimeras ça, et donc elle est morte pendant que j'étais sur le bateau. Et c'est là que j'admire Madame O'Connor, quoique je fais des réserves et j'ai peur d'elle, parce qu'elle a rendu Flannery très malheureuse, et puis parce qu'on a peur de ces grandes bonnes femmes prussiennes, même quand elles ont 90 ans, et que là maintenant, en allant en Amérique, je vais certainement voir Madame O'Connor, mais je ne tiens pas à dormir chez elle. Madame O'Connor m'a dit, est venue, et elle était déjà pas jeune, à l'arrêt du bateau, je suis arrivée par bateau à New York, et m'a dit, Flannery, juste avant de mourir, a dit, tout doit se passer pour Gabriel comme si j'étais là. Et j'ai tout fait. J'ai fait tout le séjour, les 5 jours, avec la visite à la tombe et tout, mais Flannery avait tenu à ce que je dorme dans sa chambre, j'ai dormi dans sa chambre, et Madame O'Connor, pour une mère qui venait de perdre sa fille, il y avait 2 jours, la tombe n'était pas encore recouverte, il y a eu encore la messe de mort avec le cercueil à l'église, puis on n'a pas eu de dalle pour la tombe, on n'avait pas le temps. Alors, je pense, c'est une anecdote, mais le problème noir chez Flannery, pour montrer qu'il était très ambigu, et je crois que la traductrice n'a pas rendu honneur à Flannery qui voyait ça autrement, qui avait les clichés, les critères du Sud, mais qui était aussi quelqu'un de beaucoup trop intelligent et de beaucoup trop généreux pour être raciste, quand elle est très peu de temps avant qu'elle soit morte, les 3-4 derniers jours, sa mère, elle dit à sa mère, maman, elle était à l'hôpital, c'est 2-3 jours avant. C'est sa mère qui me l'a raconté. Pour me dire, et sa mère me l'a raconté pour me démontrer que Flannery perdait la tête. Et sa mère me dit, heureusement, elle n'a pas su quand elle est vraiment morte parce qu'elle disait n'importe quoi, elle perdait la tête. Pour vous donner un exemple, 2-3 jours avant de mourir, elle me dit, maman, pourquoi ne descends-tu pas déjeuner? Et Madame O'Connor me dit, ben je lui réponds, ce n'est pas possible en ce moment, c'est l'heure des gens de couleur. Je ne peux pas descendre déjeuner, là c'est l'heure des gens de couleur. Et Flannery éclate de rire et lui dit, mon Dieu, faire encore attention à des choses pareilles. Et Madame O'Connor conclut, vous voyez, elle commençait à délirer, ça n'allait plus du tout. Bon. Et ça, c'était vraiment, tout le temps, on trouve des phrases comme ça dans les lettres que la mère n'a sans doute pas lues. Elle me disait, je n'admets pas que Baldwin soit considéré comme un grand écrivain, Flannery ne l'aimait pas, mais mon génie, je le dois aux Noirs et à ceux qui ont souffert pour nous, est une phrase, mot pour mot, qu'on trouve dans son courrier plusieurs fois. Le génie du Sud, c'est les Noirs. Je crois qu'il n'y a personne, à part Faulkner qui a dit les Noirs, les petits-enfants, et je ne sais plus encore quoi, je crois qu'il n'y a personne dans le Sud qui a eu plus le respect de l'autre, qu'il soit noir ou blanc, parce que c'est le respect de l'étranger, de l'autre, du mystère. Et Flannery était exaspéré, tout le temps vivant parmi les Noirs, dans un endroit où il y a plus de Noirs que de Blancs, dans un endroit très pauvre de Géorgie, par le fait que ils ont leur mystère, c'est pour ça qu'elle les respectait et admirait, et j'arriverai jamais à pénétrer dans leur tête.
C'était Une saison en enfer avec Flannery O'Connor, de Marlène Hospice, avec la participation de Hector Bianciotti, Gabriel Rollin, Roger Grenier, et les voix de Maurice Chevitte, Jean-Loup Philippe, Didier Le Sourd, Mathieu Ortlieb, Mado Morin, Marion Laurent, Joël Guigui, Jackie Berger. Mixage Jean-Paul Herbert. Assistante Annie Wojciechowska. Réalisation Arlette Dave. Les œuvres de Flannery O'Connor ont été publiées en français sous les titres La sagesse dans le sang et ce sont les violents qui l'emportent, Les braves gens ne courent pas les rues, Mon mal vient de plus loin, Le mystère et les mœurs, Pourquoi ces nations en tumulte. But if he keep on rising, you're gonna follow him. Don't pack my suitcase, go back to Tennessee. Don't pack my suitcase, go back to Tennessee. For this Tallahassee River done got the best on me.
Cette émission a été diffusée la première fois le 19 février 1982 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.